Alors, Christian Page nous présente son nouveau livre, Tueur de l'occulte, sacrifice humain, meurtre satanique, vampirisme. Christian Page, tout un menu, ça?
Effectivement, juste avant le déjeuner, comme ça, ça commence bien une journée.
Je vous disais à micro fermé que quand j'ai vu le thème du livre, j'étais un peu surpris. C'est sûr qu'on vous associe beaucoup aux phénomènes paranormaux, mais là, vous me disiez en même temps que c'est peut-être une de vos premières passions.
Voilà. Lorsqu'on parle de phénomènes paranormaux, comme beaucoup de gens, je me suis posé la question, est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Est-ce que les fantômes existent? Est-ce qu'une vie après la mort? Mais au-delà de cette préoccupation sur le phénomène lui-même, mon premier intérêt pour les phénomènes paranormaux, c'est d'abord une approche sociologique. Pourquoi on y croit? Pourquoi ces phénomènes-là, malgré l'avènement de sciences rationalistes, pourquoi est-ce que ces phénomènes demeurent omniprésents dans notre culture? Et peu de gens savent que c'est moi qui est quand même le concepteur de nombreuses séries judiciaires, notamment Canal D, Les Enfants Tueurs, Crimes Occultes. Ça m'intéresse beaucoup cet aspect sociologique. Et bien sûr, l'expression maximum de la croyance dans la culture du paranormal ou du fantastique, c'est bien sûr le crime occulte. Il faut vraiment être très embrigadé dans une croyance pour en arriver à commettre le geste. Généralement, ces croyances sont assez bénignes. On croit aux extraterrestres, on croit aux vampires, on croit aux loups-garous. Mais quand un individu passe l'étape de « je crois aux vampires et je vais assassiner mon voisin pour m'abreuver de son sang », là, c'est vraiment l'expression de cette croyance qui est poussée à son maximum.
Vous avez retenu 13 histoires. Des histoires vraies.
Des histoires vraies sur lesquelles j'ai personnellement enquêté. Donc, au gré de mes activités professionnelles, j'ai été amené à rencontrer des procureurs, des juges, des policiers, et ces gens-là m'ont donné accès à leurs dossiers, les photos d'archives, les photos des scènes de crime, les transcriptions des notes qui se sont tenues durant les procès, et c'est une sélection de ces 13 cas-là que je présente dans cet ouvrage.
Puis bon, il y a différentes époques et tout ça. Quelle est l'histoire ou le cas qui vous a le plus marqué?
Les Éventreurs de Chicago. Sans conteste. On se retrouve ici, pour situer un peu les auditeurs, on se retrouve dans le Chicago du début des années 80 et on a des femmes qui sont enlevées, assassinées et affreusement mutilées. On va passer sur les détails un peu sordides. Et ce qui frappe un peu les policiers, c'est qu'on conclut qu'on est en présence d'un tueur en série. Mais ce qui étonne les policiers, c'est que le tueur en série chasse tout azimut. C'est-à-dire que généralement, les tueurs en série vont rester dans les mêmes groupes, par exemple. Ils vont choisir une victime. La même victimologie, le même type de femme, par exemple, au niveau de son ethnie, la couleur des cheveux, etc. Alors qu'ici, dans les tueurs de Chicago, à ce moment-là, on ne sait pas qu'on est un groupe de tueurs, mais ce sont un tueur qu'on imagine. Ils chassent, peu importe l'ethnie, peu importe la couleur des cheveux, les femmes sont enlevées, mutilées et essentiellement, elles sont ce que le tueur souhaite prendre, c'est les organes génitaux de ces victimes. Et éventuellement, les policiers vont arrêter un quatuor, 4 individus qui sont dirigés par un individu qui s'appelle Robin Getch. Ici, ça ressemble assez, on se rappelle tous l'affaire Manson, on en a beaucoup parlé au cours de l'été. Ici, on a un peu la même mécanique. On a un personnage excessivement charismatique qui contrôle les trois autres tueurs qui œuvrent avec lui. Et ces gens-là ont tellement peur, il y a une telle ascendance de Robin Getch sur ses comparses qu'au moment où il y aura procès, parce qu'ils se font arrêter, et on va apprendre que ces gens-là prenaient ses organes génitaux, faisaient des rituels sataniques dans une pièce qui avait été aménagée dans le grenier de la maison de Robin Getch. Et au moment où il va y avoir le procès, tous les acolytes vont prendre sur eux les crimes pour finalement exclure de l'activité Robin Getch. Robin n'a jamais rien fait, c'est nous qui faisions ça, etc., etc. Tant et si bien que les trois co-accusés deux d'entre eux seront condamnés à mort, un sera condamné à une lourde peine de prison, mais Robin Getch, le cerveau de l'histoire, lui ne sera accusé que d'enlèvement, mutilation et séquestration.
Mais
il ne sera pas accusé de meurtre.
Faisiez le lien avec, ou le parallèle avec Charles Manson. Comment on explique la capacité d'un gourou d'embrigader des individus, de laver le cerveau. Je comprends qu'à l'époque, il y avait aussi la consommation de drogue et tout ça.
Exact.
Mais de les amener comme commando de la mort à deux reprises, sans lui-même s'impliquer directement
exact.
En étant présent sur les lieux. Comment on explique ça?
On ne l'explique pas.
Bonne réponse.
En fait, sur le plan psychologique, il y a toutes sortes de mécanismes qui se mettent en place lorsqu'on est en présence d'une secte. Et dans le cas de Manson, c'est ce qu'on avait. Et dans le cas des Éventreurs de Chicago, on a à peu près la même mécanique. On a cet individu-là qui a un discours, qui a des prétentions, et les gens qui sont autour de lui ont l'impression de faire partie d'une élite parce qu'ils l'accompagnent, parce qu'ils bénéficient d'une information privilégiée. J'ai des contacts avec le diable, il me dit ceci. Et ces gens-là croient dans le discours parcours de cet individu. C'est exactement la même mécanique qu'on retrouve dans l'affaire Manson. Manson avait des prétentions, les gens qui étaient autour de lui avaient les convictions que ce type-là avait une information privilégiée, qu'il avait des visions du monde à venir. Et on le sait, si on accepte la vision du Helter Skelter proposée par Vincent Pugliosi, Manson croyait devenir éventuellement le nouveau maître du monde après avoir déclenché sa guerre raciale. Les gens qui vivaient autour de lui avaient l'impression d'être privilégiés. On retrouve ça dans l'affaire Manson, dans l'affaire de Robin Getch et les éventreurs de Chicago, mais on retrouve ça également dans l'ordre du Temple solaire que j'évoque là-dedans. Les gens, bien sûr, les motivations d'un Dimambro ou d'un Luc Jouret étaient peut-être différentes des motivations des gens plus bas dans la pyramide, mais au moment où ces gens commettent les crimes, ou ces gens-là, parce que lorsqu'on parle de l'OTS, les gens parlent souvent de suicide collectif, rappelant par exemple l'affaire de Jonestown, alors que dans les faits, on a un maximum d'assassinats et un minimum de suicides. Et dans l'affaire de l'OTS, quand les gens ont commencé à accepter cette idée du transit, il faut vraiment être très embrigadé dans cette vision de cette culture de l'au-delà. Je vais rejoindre des extraterrestres qui vivent autour de l'étoile de Sirius. Et bien sûr, comme ces gens-là vivaient dans le giron de Jouret ou de Dimambro, ils avaient l'impression de faire partie d'une élite particulière et d'avoir une information privilégiée.
Dans le cas de l'Ordre du Temple solaire, le fait qu'on retrouvait des gens de tous les milieux, là. Il y avait des gens chez Hydro-Québec, il y avait le maire d'une municipalité, il y avait... Puis bon, en Europe, la liste est longue aussi. Dimambro devait pas croire ce qu'il racontait. Jouret devait pas croire ce qu'il racontait. Il y avait comme une motivation économique ou en tout cas pour avoir un ascendant sur un groupe.
Et ça, c'est assez amusant parce que quand on parle avec les experts du FBI sur les crimes occultes, et moi, j'ai rencontré, par exemple, à la fin des années 80, le FBI avait été mandaté de faire une enquête sur la présence de groupes sataniques aux États-Unis. Quand j'ai parlé avec les agents du FBI, ils me disaient « les crimes occultes sont très rares. Généralement, on trouve, quand on commence à gratter un peu la surface, on découvre qu'il y a d'autres motivations. Dans le cas de l'OTS, par exemple, il est très certainement possible que Dimambro et Jouret aient eu d'autres motivations que ses croyances ésotériques ou mystiques. De toute façon, Jouret et Dimambro étaient bien conscients que leur contact avec les maîtres de l'espace était de la supercherie. Il y avait des jeux de miroirs, des jeux de caméras, des hologrammes. On faisait accroire tout ça au public. Et au moment où l'ordre va s'aborder de l'intérieur, il faut savoir que les autorités françaises avaient à l'œil l'OTS et il y avait eu des dérives financières. Dimambro perdait un peu le contrôle de ses ouailles et tout ça, pour lui, c'était son empire qui s'écroulait. Et probablement que ses motivations tenaient plus dans cet élément d'ordre économique ou dans cet aspect, disons, égocentrique du personnage. Mais pour les gens de la base, on croyait réellement à ce transit vers Sirius.
La série Mindhunter nous montre...
Excellent.
C'est vraiment très bon. Nous montre la petite histoire donc du profilage, d'être capable d'identifier les individus. Puis dans cette série, la deuxième saison, on voit des cas connus, Manson, Williams à Atlanta.
Ouais.
Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une évolution sur les méthodes d'enquête qui permettent d'aller rapidement, en tout cas plus rapidement, identifier des suspects ou valider des preuves?
La criminalistique s'est complètement transformée au cours des 20 dernières années. On regarde aujourd'hui là, tout ce que l'on peut faire avec l'ADN. À l'époque, il y a des tueurs de l'occulte qui ont commis des crimes en laissant derrière eux des preuves importantes. Et il a fallu un certain nombre de temps avant que les policiers leur mettent le grappin dessus. Et pourtant, les preuves étaient nombreuses. Aujourd'hui, grâce à la criminalistique et en particulier l'ADN, on est capable de mieux cibler ces suspects. On a également, grâce à l'informatique, on a un accès beaucoup plus spontané aux banques d'informations qui sont colligées. Donc, c'est sûr que tout le crime s'est vu ébranlé par l'approche, ces nouvelles approches criminalistiques. Mais c'est vrai que dans les tueurs de l'occulte, dans bien des cas, ils n'ont pas trop essayé de dissimuler le crime.
La signature était forte.
La signature était forte. Et les gens me posent souvent la question, est-ce que ces gens-là sont malades? La réponse est, dans la plupart des cas, certainement oui, mais pas forcément dans le sens judiciaire du terme. Parce que je pense, par exemple, je l'évoque dans mon bouquin, Richard Chase, à la fin des années 70, le vampire de Sacramento, il a commis des gestes tout à fait épouvantables, se donnant des actes de nécrophilie, de cannibalisme. Mais quand les policiers sont venus pour l'arrêter, il avait une petite boîte entre les mains. On le suivait, il avait une boîte entre les mains dans laquelle il y avait encore les restes d'un enfant de 22 mois dont il avait mangé une partie de la cervelle. Et quand les policiers l'ont interpellé, il a jeté la boîte et il s'est sauvé. Uniquement ce geste montre bien que Richard Chase, même s'il n'était pas tout là, comme on dit, il avait quand même une conscience de ce qu'il faisait, que ce qu'il faisait était mal et essayait de dissimuler les preuves derrière lui.
Christian Page, merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre « Tueur de l'occulte ». C'est publié chez Guy Saint-Jean et vous avez une conférence au mois d'octobre.
Le 5 octobre, au Centre Roussan à Montréal. Et les gens qui voudraient de l'information, simplement taper www.christianpage.ca. Toute l'information est là.
Merci.
Ça me fait
bonne
plaisir.
Bonne journée. 9h08. Allons-y avec le résumé.